Béni sois-tu, notre Père, notre Dieu. Toi qui te distingues parmi tant d'autres. Toi qui ne changes pas, toi qui demeures constant en toutes choses. Toi qui règnes, toi qui influences toutes les sphères de la création. Et toi qui fais accomplir sur la terre toute ta volonté. Tu es celui qui pourvoit à nos besoins. Tu es celui qui nous pardonne. Tu es celui qui nous induit point en tentation. Tu es le Dieu de notre délivrance. Et le règne et la puissance sont à toi, d'âge en âge, en éternité, en éternité. Père Tout-Puissant, je me tiens ce matin devant des hommes et des femmes pour lesquels Jésus a donné sa vie. Des hommes et des femmes qui comptent à tes yeux. Et c'est pourquoi ce matin, avec humilité, Éternel mon Dieu, je te prie et je te demande une seule chose, parce que je ne suis qu'un serviteur inutile. Rends-moi utile, Seigneur, afin que quelqu'un ce matin soit encouragé, quelqu'un ce matin soit restauré, quelqu'un ce matin soit béni pour la seule gloire de Jésus-Christ. Alors, Seigneur, prends toute ta place ce matin. Parle, tes serviteurs écoutent et glorifie ton Fils. Ainsi, nous avons prié. Amen.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Que le Seigneur vous bénisse et que sa paix soit sur chacun de vous. Alors hier, nous avons commencé à parler sur le mystère de la révélation de Dieu. Comprendre pourquoi Dieu se révèle. Pourquoi Dieu prend la peine de se révéler aux hommes. Et je disais hier que la révélation de Dieu est un mystère. C'est une initiative qui est divine et on ne peut pas comprendre Dieu sans que Dieu lui-même nous donne la possibilité d'avoir accès à ce qu'il est. Et je disais hier que, faute de révélation, les gens sont tombés dans l'imagination. C'est ça le problème aujourd'hui. Quand on n'a pas la révélation de Dieu, on va commencer à imaginer qui est Dieu. Et c'est pourquoi nous avons, à travers l'histoire des hommes, plusieurs courants qui ont voulu expliquer et comprendre Dieu. Nous avons notamment, avec la philosophie, ils ont essayé de comprendre le monde, la création, en pensant que certainement il doit avoir une force supérieure. Ils n'arrivent pas à l'appeler par son nom parce qu'ils n'ont pas la révélation. Donc, ils ont commencé à dire certainement que c'est une force. Certainement que c'est la raison, c'est l'idée absolue. Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Ceux qui l'appellent par son nom, ce sont ceux qui ont été révélés. Et quand il n'y a pas la révélation de Dieu, on essaie. Alors, avec les civilisations gréco-romaines, ils ont voulu attribuer à chaque élément de la nature, justement, une divinité. Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Ils se sont dit certainement, à travers la nature, il doit y avoir un Dieu. À travers le soleil, il doit y avoir un Dieu. Un Dieu de la guerre, un Dieu de l'amour. Un Dieu de la fécondité, un Dieu qui guérit. Donc, on a essayé à travers l'histoire, d'imaginer Dieu, on a essayé même de le couper en petits morceaux et attribuer plusieurs divinités. Et avec l'Égypte antique, c'est la même chose. On a attribué à chaque élément de la nature un esprit, un Dieu. Pourquoi les hommes en sont arrivés à ce point-là? C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu la révélation. Et lorsque nous lisons nos Bibles, nous avons vu que la Bible commence en disant « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Et je vous disais que la création, elle est autant visible qu'invisible. Dieu a créé le visible, Dieu a créé également l'invisible. Et je vous ai dit hier que ce n'est pas parce que vous ne voyez pas certaines choses que ces choses n'existent pas. Il y a des choses qui existent, que nous ne voyons pas avec nos yeux humains, mais qui sont réelles. Et j'avais pris l'exemple hier de certaines choses dans la vie courante. Nous parlons de microbes, nous parlons de bactéries, et nous n'arrivons pas à voir avec nos yeux des microbes. Il y a certaines choses pour que nous puissions prendre connaissance de leur existence, il faut qu'il y ait une révélation. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui va permettre qu'on puisse avoir la connaissance de ces choses. Alors, avec des microscopes, grâce au microscope, nous pouvons voir les microbes. Sans microscope, il va être difficile de voir les microbes, certains microbes. Donc le microscope devient l'élément révélateur qui va nous permettre de voir ce qui est invisible mais qui est réel. Donc, il y a des choses qui existent, mais il faut que nous puissions avoir la révélation. C'est-à-dire que lorsque nous disons « Seigneur, tu es grand », ce n'est pas parce que nous commençons à le dire que Dieu commence à être grand. Dieu a toujours été. Le problème, c'est que c'est dans notre marche que nous découvrons ce qui a toujours existé en Dieu. C'est ce que nous appelons la révélation. Dieu ne commence pas à faire certaines choses par rapport à sa nature et son identité. Dieu a toujours été. C'est nous qui découvrons Dieu à travers les circonstances de notre vie, à travers certains événements. Nous découvrons des aspects de la nature de Dieu. Et donc je disais que la révélation, c'est une initiative divine, c'est-à-dire c'est Dieu qui vient vers les hommes et il leur montre qui il est. Et donc, nous avons vu les deux premières raisons pour lesquelles Dieu se révèle. Premièrement, je disais hier que Dieu se révèle premièrement pour être en relation avec les hommes. Parce que l'homme ne peut pas être en communion avec Dieu si Dieu ne vient pas vers l'homme.
Amen.
C'est pourquoi, comme Dieu n'est pas venu vers les hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé la religion. À travers la religion, l'homme, c'est l'initiative humaine d'aller chercher à rencontrer Dieu. Or, Dieu n'a pas inventé la religion. Dieu avait prévu un moment dans l'histoire où c'est lui-même qui viendrait vers les hommes pour établir une relation à travers la personne de Jésus-Christ. Donc, Dieu est relationnel. Donc, la première chose, il veut établir une relation avec nous. Il veut qu'à travers cette relation, nous puissions le connaître. Donc, ça commence par la relation avec Dieu, que lui-même, qui est sa propre initiative, il vient vers nous, il nous révèle qui il est. Il nous révèle qu'il existe. Il nous révèle qu'il parle, qu'il communique. Il nous révèle qu'on a du prix à ses yeux, qu'on est important pour lui. Et après la révélation, la deuxième raison, c'est que Dieu justement veut que nous puissions le connaître. On ne peut pas connaître Dieu en dehors de la relation. En dehors de la relation, nous n'avons que des informations sur Dieu. Et les informations sur Dieu, nous les avons à travers les œuvres que Dieu fait, c'est-à-dire à travers la création. À travers la création, nous regardons le ciel, la terre, nous voyons les océans, les mers, et nous nous posons des questions en se disant, ah, sûrement il y a un Dieu qui a dû créer cela. Mais les informations que la création nous donne sur l'auteur, c'est-à-dire Dieu, ne nous permettent pas de le connaître lui de façon personnelle. Et Dieu savait que de façon personnelle, pour le connaître, il faut qu'il se révèle à nous. Sinon, on va le servir juste sur la base d'informations. Et c'est ça le problème de la religion. Aujourd'hui, on sert Dieu dans la religion parce qu'il y a juste des informations. Hein. Donc, première chose, il se révèle, il crée la relation. De la relation, il faut que maintenant Dieu se révèle à nous pour que nous puissions le connaître. Et c'est là que Dieu, justement, va faire certaines choses. Il va montrer sa puissance. Il va venir nous délivrer. Il va nous mettre au large. Il va accomplir des œuvres dans nos vies. Il va nous faire rentrer dans le surnaturel pour que nous nous rendions compte qu'il est véritablement ce qu'il est. Et lorsque nous découvrons qu'il est véritablement ce qu'il est, ça va nous amener au point que nous allons voir ce matin. Ça va nous amener à la foi. Parce que lorsque nous découvrons que Dieu finalement est vivant, que Dieu est réel, que Dieu est puissant, redoutable, on peut avec assurance nous appuyer sur lui. Pourquoi? Parce que la foi a toujours un objet. La foi doit toujours se reposer sur quelque chose. Ta foi, si elle n'a pas de fondement, elle n'a pas d'objet, ce n'est pas la véritable foi. C'est pourquoi nous avons pris l'exemple des enfants d'Israël hier. Parce que Dieu avait un peuple en Égypte. Et ce peuple-là faisait partie de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. Mais non, ce peuple qui était en Égypte, Dieu savait très bien que la génération de Moïse est une génération qui ne le connaissait pas. Abraham avait connu Dieu parce que Dieu s'est révélé à Abraham. Il a expérimenté quelque chose avec Dieu. Joseph a expérimenté quelque chose avec Dieu. Mais après Joseph, toute cette génération qui est restée en Égypte et qui est née en Égypte ne le connaissait pas. Et Dieu savait très bien que le peuple qui est en Égypte ne le connaissait pas. Alors c'est pourquoi il va venir vers ce peuple par Moïse pour amener ce peuple justement à la vraie connaissance de Dieu. Donc lorsque Dieu dit à Moïse, tu vas aller voir Pharaon pour lui dire, laisse aller mon peuple. Dans quel but? Pour qu'il aille me servir dans le désert. Mais comment ce peuple allait-il suivre Moïse? Comment ce peuple allait-il marcher dans le désert si Dieu il ne le connaissait pas? Qu'est-ce qui allait motiver ce peuple? Qu'est-ce qui allait encourager ce peuple à sortir d'Égypte et à faire confiance à Moïse? C'est pourquoi Dieu va frapper l'Égypte des 10 plaies. Pour montrer à ce peuple que le Dieu de Moïse, le Dieu de leurs ancêtres, est différent des dieux égyptiens. Pourquoi? Parce qu'il faut susciter la foi, il faut qu'il crée quelque chose dans le cœur du peuple pour les amener à être rassurés. Parce qu'il n'y avait pas de certitude s'il était Dieu différent des autres dieux ou pas. Alors, il commence en Égypte par accomplir certaines œuvres surnaturelles. Et les œuvres surnaturelles que Dieu va permettre en Égypte va faire naître ce que nous appelons la foi initiale, c'est-à-dire la première foi. La foi initiale, c'est la foi de départ. C'est la foi que Dieu suscite dans nos cœurs. C'est la foi qui nous permet de croire en son existence. C'est la foi qui saisit la grâce de Dieu. C'est la foi qui saisit le salut. Ça, c'est la foi initiale. Elle naît en Égypte. C'est lorsque Dieu vient vers toi dans le surnaturel, au moment où tu ne le connais pas, pour te rassurer qu'il est réel, qu'il est vivant, qu'il existe. Ça, c'est la foi initiale. Israël, Dieu permet, donc, tout ce surnaturel, la mer rouge qui se fonde, pour que ce peuple ait la foi initiale, la foi du salut. C'est beaucoup d'entre nous ont cette foi parce que c'est la foi qui te permet de penser et de croire effectivement que tu n'es pas un athée, hein, que tu crois que Dieu existe. C'est la foi qui t'amène à la certitude que Dieu est vivant, il existe. Mais la foi initiale ne suffit pas.
Amen.
Donc, le but de Dieu dans la révélation, c'est pas que nous ayons juste la foi initiale. Parce que la foi initiale qui naît en Égypte, doit passer par le désert. Et cette foi initiale qui naît en Égypte doit passer dans le désert, parce que dans le désert, cette foi initiale doit devenir une foi ferme. Dieu a fermé la foi à travers les épreuves. Parce que vous ne pourrez pas résister au diable avec la foi initiale. La Bible dit résister au diable avec une foi ferme. Vous savez, votre Bible, lorsqu'elle précise, elle ne précise pas en vain. La Bible aurait pu tout simplement dire résister au diable avec la foi. Mais la Bible dit résister au diable avec une foi ferme. Qu'est-ce qui renferme la foi? C'est les différentes épreuves dans le désert. C'est dans le désert que Dieu va vérifier si vous avez compris la révélation qu'il a faite dans votre vie. Il doit vérifier. Vous dites que vous avez cru en lui. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il veut vérifier si votre croyance là en lui est authentique. Il vous envoie dans le désert. Mais comme je le disais, que la foi doit se reposer sur quelque chose. Bon, il faut se souvenir de ce que Dieu a fait en Égypte pour pouvoir compter sur lui dans le désert. Parce que si en Égypte il n'y a pas eu la rencontre, comme je le disais hier, s'il n'y a pas eu un jour, ça se passe en Égypte, ça va être difficile pour vous dans le désert de tenir. Il faut qu'il rencontre. Il faut que vous puissiez avoir expérimenté quelque chose avec Dieu qui va bouleverser toute votre vie et vous saurez avec certitude que Dieu est Dieu et qu'il est de votre côté. S'il n'y a pas cette expérimentation de Dieu, ça va être difficile dans le désert de tenir. Alors, ce peuple qui est sorti d'Égypte et qui a vu, Dieu va voir maintenant dans le désert, est-ce qu'ils vont continuer à croire? Parce que la problématique de la foi, c'est quoi? Ce n'est pas, la foi n'est pas un acquis, hein? On ne capitalise pas la foi. J'ai la foi et c'est terminé jusqu'à ce que Jésus revienne. La foi, c'est une affaire de tous les jours.
Amen.
Donc, le point, ce n'est pas de croire aujourd'hui, le point, c'est de continuer à croire aujourd'hui, demain, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. C'est le continuer à croire là qui nous pose un problème, parce qu'aujourd'hui, nous pouvons croire en Dieu. Nous pouvons avoir le zèle, la fougue pour le Seigneur. Et demain, une autre circonstance arrive dans notre vie et on est complètement ébranlé. Vous avez vu l'histoire du prophète Élie? J'ai toujours été surpris par cette histoire. Parce que je me suis dit, m'attendais un peu. Ce qui sépare le chapitre 18 et le chapitre 19 de Roi, c'est juste un chapitre, hein. C'est pas 2 ans après, 3 ans après. Hein. Élie a démontré sa foi devant tous ses prophètes. Il était le seul. Il croyait en Dieu, Dieu était capable. Il était seul. Il a manifesté une très belle foi en Dieu. Mais le chapitre qui suit, je dis bien le chapitre qui suit, pas 10 ans après, le chapitre qui suit, hein. Jézabel va menacer Élie. Toi, tu as tué les prophètes là, de la même manière. Tu as tué les prophètes là. Moi, je vais te tuer aussi. Et qu'est-ce que le frère Élie a fait? Où était la foi d'Élie? Élie aurait pu se dire, mais devant tous ces prophètes là, j'ai vu Dieu le feu tomber du ciel. Dieu m'a justifié, j'ai vu la réalité de Dieu. C'est quoi les menaces de cette femme devant moi qui suis le prophète de l'Éternel? Il devait être en paix. Mais ce qui est étonnant, c'est que Élie entend les menaces de Jézabel. Élie a peur, Élie fuit. Non seulement il fuit, il réclame la mort. Où était la foi d'Élie? Les ennemis de la foi, faites attention à vos 5 sens. Ce que vous entendez, ce que vous voyez. Ce sont les 2 portes majeures, hein, ce que tu vois, ce que tu entends. Ça déstabilise la foi, hein. A entendu, il a eu peur, il a fui. Non seulement il fuit, mais en plus de cela, il réclame la mort. C'est étonnant quand même, hein, pour un homme qui a manifesté la foi avec tous ses prophètes, pour un homme qui a vu le feu descendre du ciel, qui a expérimenté le surnaturel, Dieu l'a justifié, mais face à des menaces de mort, il a eu peur. Il a réclamé la mort. La foi initiale s'affermit dans le désert. C'est dans le désert que Dieu va t'éprouver pour voir si réellement ce que tu dis de lui, tu le comprends. Est-ce que c'est vrai ce que tu dis? Hier, je le disais à votre pasteur et je le dis souvent, vous savez, on aime Dieu et on a confiance en Dieu que dans nos chansons.
Amen.
C'est-à-dire que c'est très facile en chantant de dire « Seigneur, je te fais confiance ». C'est très facile en chantant de dire « Seigneur, je t'aime ». Mais vivre ça, c'est autre chose.
Amen.
Donc ce qui fait que Dieu n'est pas impressionné par nos paroles et par nos discours. On peut dire « Seigneur, je t'aime, Seigneur, je te fais confiance ». Dieu dit « Il n'y a pas de problème, mais je veux voir ». Ah oui. Maintenant, tu vas voir comment. Il va te faire passer par le désert. Et nous ne comprenons pas toujours pourquoi il y a certains déserts dans nos vies. Mais certains déserts dans nos vies sont les réponses de vos prières. Parce que quand tu dis Seigneur dans ta prière, Seigneur, brise-moi. Seigneur, je veux être humble. Mais entre-temps, Dieu t'a pas dit, il va faire comment? Ça va se passer comment? Toi, tu lui as demandé le brisement. Toi, tu lui as dit, Seigneur, je veux être humble. Dieu prend acte. Mais maintenant, quand tu vas permettre le contexte pour te briser là, tu seras encore la même personne à venir dans ta présence, mais Seigneur, je comprends qu'on a dit. Mais c'est toi qui as dit Seigneur, brise-moi. C'est pas vrai?
Amen.
C'est pourquoi la Bible dit, quand vous priez, ne soyez pas pressés de proclamer des paroles à Dieu. Dieu est au ciel. Nous sommes sur la terre, que nos paroles soient peu nombreuses. Quand tu dis Seigneur, brise-moi, alors prépare-toi, brise-moi.
Amen.
C'est vrai, hein?
Amen.
Je veux aimer Seigneur comme toi. Ah bon? Tu sais ce que c'est l'amour là? Comment Dieu l'aime? Dans l'amour de Dieu et le sacrifice, est-ce que tu es prêt à être sacrifié? Est-ce que tu es prêt au renoncement? Vous voyez que c'est facile pour nous de déclarer des paroles à l'égard de Dieu. Mais vivre nos paroles, c'est autre chose. Or, Dieu veut que l'on soit vrai avec lui. La vie chrétienne, ce n'est pas de la comédie. On n'est pas là pour impressionner Dieu. On n'est pas là pour faire semblant. On est là tel que nous sommes. On s'avance pour dire, Seigneur, voilà mes difficultés. Voilà mes faiblesses. Soutiens-moi. Aide-moi, Seigneur. On n'est pas là pour l'impressionner. La foi initiale, elle naît en Égypte La foi ferme, ou bien la foi victorieuse, elle est née dans le désert.
Amen. Amen.
Dieu t'éprouve pour voir est-ce que tu lui fais confiance. Donc, or, Dieu ne peut pas demander à des personnes d'avoir la foi s'il ne s'est pas révélé à ces personnes.
Amen.
Ça veut dire que quand Dieu demande de lui faire confiance, il est pertinemment sûr et certain qu'il s'est déjà révélé à toi. Dieu n'est pas suicidaire, il n'est pas injuste. Quand nous sommes appelés à lui faire confiance, c'est parce qu'il sait qu'il s'est déjà révélé à toi. C'est pas qu'il va le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais déjà les premières révélations que tu as reçues de la part du Seigneur, dans les premiers mois, les premiers jours de même de ta conversion, ça devrait suffire pour que tu bâtisses ta foi sur ça.
Amen.
Mais le problème, c'est que nous, on veut que Dieu sait ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais le fait de savoir que Dieu est Dieu, qu'il est vivant, le fait de savoir qu'il ne change pas, devrait te rassurer. Or nous, et du moment où on oublie que Dieu est vivant, et quand à un moment donné il y a un silence de Dieu, vous savez, le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu.
Amen.
À un moment donné, tu peux vivre comme un silence de Dieu, tu as l'impression que Dieu t'a abandonné, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est silencieux pour se révéler par la suite. Mais il faut que nous comprenions, même dans le silence, Dieu est présent.
Amen.
Donc, la présence de Dieu, la véritable problématique, et ça, je le dis aussi souvent, ne réside pas dans le fait de savoir est-ce que Dieu il est là ou bien il n'est pas là. Même dans l'Église, parce que dans l'Église, nous devons savoir que ce qui est le plus important pour nous, ce n'est pas de savoir est-ce qu'il est là ou il n'est pas là, parce que Dieu, il est là. Ce dont nous avons besoin, c'est de sa manifestation. Ce n'est pas de la présence de Dieu. La présence, elle est là. Pour ceux qui sont en Christ, ils portent déjà l'Esprit de Christ en eux, donc Dieu en eux. Le problème de notre vie, c'est qu'il faut que Dieu se manifeste, ce n'est pas sa présence. Or, Dieu ne peut pas se manifester n'importe comment et avec n'importe qui. Il y a des choses qui empêchent l'Esprit de Dieu en nous de se manifester. Et ça, c'est en rapport bien sûr avec toute forme de désobéissance à Dieu et à sa volonté. La foi, elle est importante pour pouvoir justement servir Dieu. La foi, elle est importante pour pouvoir marcher avec Dieu. Mais le problème, encore une fois, c'est qu'il y en a qui ont la foi en Dieu, mais la foi en Dieu ne suffit pas pour pleinement vivre une vie de victoire avec le Seigneur. Il faut avoir la foi de Dieu. On peut connaître beaucoup de choses sur Dieu, mais ne pas faire confiance à Dieu. Alors je vais vous inviter dans Jean chapitre 11, où on va découvrir une personne. Jean 11. Et cette personne, c'est notre sœur Marthe. Marthe, la sœur de Lazare. Jean chapitre 11. À partir du verset 17. Dieu suscite la foi, mais la foi initiale que Dieu fait naître dans nos cœurs doit s'affermir. La parole de Dieu déclare, quand Jésus arrive, il apprend qu'on a mis Lazare dans la tombe. Il y a 4 jours déjà. Béthanie est près de Jérusalem, à 3 kilomètres environ. C'est pourquoi beaucoup de Juifs sont venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Marthe apprend que Jésus arrive et elle part à sa rencontre. Marie reste assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas, j'en suis sûr. » On va aller progressivement dans ce texte pour comprendre la problématique de la foi à travers Marthe. Marthe, après la mort de son frère Lazare, va, après sa rencontre avec Jésus, déclarer certaines paroles, expressions de sa foi. Lorsqu'elle apprend que Jésus arrive, donc elle va dire ceci: Seigneur, verset 21, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Déjà, le fait qu'elle le dise, c'est assez intéressant pour nous de comprendre que Marthe était convaincue qu'il y a 4 jours. C'est-à-dire qu'il y a 4 jours, donc en arrière, si Jésus était là au moment où Lazare était malade, Lazare serait guéri. Donc, elle croyait que Jésus avait la possibilité de guérir. Jésus guérit. Elle ne remet pas en question le fait que Jésus ne guérisse pas. Elle croit que Jésus a la capacité de guérir. Mais le problème ici, c'est qu'il y a un facteur. Il y a un facteur très important ici qui fait que cette croyance de Marthe, il y a quand même un problème. Elle dit, si tu avais été là il y a 4 jours, mon frère ne serait pas mort. Donc elle croit quand même que Jésus va guérir et qu'il était capable de le faire il y a 4 jours. Verset 22, maintenant même Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas, j'en suis sûr. Elle croit que Jésus, si le prie, le Père, tout, elle dit bien tout. Tout ce que Jésus peut demander au Père, elle est convaincue que le Père va lui donner cela. Vous voyez la foi de Marthe. Elle croit en cela, que le Père peut donner tout au Fils. Elle y croit. Maintenant, Jésus lui dit, ton frère se relèvera de la mort. Marthe lui répond, oui, je le sais, il se relèvera de la mort quand tous les morts se relèveront le dernier jour. Ici, on parle de la résurrection des morts. Marthe croit en la résurrection des morts. Alors qu'à l'époque, les Sadducéens et les Pharisiens étaient dans un conflit parce que les Pharisiens croyaient à la résurrection des morts, mais les Sadducéens n'y croyaient pas. Mais Marthe croyait qu'il y avait un dernier jour. Marthe croyait qu'il y avait une résurrection des morts. Donc, à ce stade-là, nous sommes quand même marqués par sa foi. Elle nous impressionne, la sœur Marthe. Elle croit qu'il y a un dernier jour. Elle croit qu'il y a une résurrection des morts. Mais on évolue avec elle. Jésus lui dit, celui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. Et tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. Est-ce que tu crois cela? Marthe répond à Jésus, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Là encore, nous sommes marqués, frappés par cette foi de Marthe. Elle croit que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, alors que beaucoup en Israël n'y croyaient pas. Et ce qui m'étonne encore dans cette histoire, c'est que la révélation de Pierre, parce qu'à cette époque-là, quand le Seigneur a révélé à Pierre que Christ était le Messie, le Fils de Dieu, Marthe n'était pas là. Et nous sommes étonnés de constater que la sœur Marthe reçoit la même révélation que Pierre. Elle est convaincue que Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est le Messie. Quelle foi! Elle croit à ces choses. Elle a la révélation. Mais, il y a un mais. Après que Marthe dit cela, elle part appeler sa sœur Marie. Elle lui dit tout bas, le maître est là et il te demande de venir. Quand Marie entend cela, elle se lève tout de suite et elle va trouver Jésus. Alors on va directement au verset 32. Marie arrive à l'endroit où Jésus se trouve. Quand elle le voit, elle se jette à ses pieds et lui dit, Seigneur, c'est le même discours, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus voit qu'elle pleure. Les Juifs qui sont venus avec elle pleurent aussi. Alors Jésus est bouleversé, troublé. Il demande, où est-ce que vous l'avez mis? Ils lui répondent, Seigneur, viens et tu verras. Jésus se met à pleurer. Les Juifs disent, mais regardez, il aimait beaucoup Lazare. Mais d'autres disent, il a ouvert les yeux des aveugles et il n'a pas pu empêcher Lazare de mourir. De nouveau, Jésus est bouleversé et il part vers la tombe. C'est une grotte avec une grosse pierre placée devant l'entrée. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe la sera. On revient avec la sœur Marthe. C'est là maintenant que tout bascule complètement. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, mais il doit déjà sentir mauvais. Il est dans la tombe depuis 4 jours. Jésus lui répond, je t'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enlève donc la pierre, Jésus lève les yeux vers le ciel et dit, Père, je te dis merci parce que tu m'as écouté, tu m'écoutes toujours, je le sais. Alors, le problème de Marthe, c'était lequel? Marthe croyait en beaucoup de choses sur Jésus. Mais le facteur temps, le temps était l'ennemi de la foi de Marthe. Marthe croyait que Jésus pouvait faire les choses à l'instant T. Mais en dehors de l'instant T, sa foi ne croyait plus. Parce que lorsque Jésus veut opérer, elle dit non, ça fait 4 jours. Et alors, même si ça fait 4 jours, lui, Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie.
Amen.
Pourtant, Jésus a dit qu'il était la résurrection et la vie. Mais le point de Marthe, c'est qu'elle dit, ça fait 4 jours. Le temps. De Dieu, à cause du temps, par rapport à une situation que vous êtes en train de traverser, vous êtes complètement ébranlé dans votre foi. Vous dites, est-ce que Dieu peut encore faire? Pourquoi? Parce que tu te dis, ça fait trop longtemps que j'attends. La notion du temps avec Dieu, c'est pas la notion du temps avec les hommes. Il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Dieu ne compte pas comme toi et moi. Quand toi tu penses que ça a mis du temps, Dieu se dit que ça ne fait que commencer.
Amen.
Ah ben oui. Donc, le temps, Dieu est maître du temps.
Amen.
Il est maître du temps. Donc, quand les choses perdurent, même si les choses perdurent, ton problème c'est de continuer à avoir les regards fixés sur Dieu.
Amen.
C'est pourquoi j'ai dit la foi, ce n'est pas de croire aujourd'hui, mais c'est de continuer à croire.
Amen.
Parce que dans Luc 18, verset 8, il a dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il la foi?
Amen.
Et la Bible dit que sans la foi, personne, Hébreux 11, verset 6, personne ne peut plaire à Dieu.
Amen.
On a dit personne. Même la prière, il faut avoir de la foi pour prier. Pensez que la prière, c'est seulement parler. Non, mes amis. Pour prier, il faut avoir de la foi. Parce que la Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Amen.
Donc, prier, ce n'est pas parler juste pour parler. Quand tu pries, tu dois déjà savoir que tu t'approches de qui. C'est pourquoi je disais à une communauté chrétienne où j'étais parti en Afrique, je leur dis que le problème c'est pas de dire aux gens est-ce qu'ils prient ou pas, parce que généralement c'est la fameuse question standard lorsqu'on voit quelqu'un, on lui dit est-ce que tu pries, est-ce que tu pries et est-ce que tu pries. Je leur ai dit que c'est la mauvaise façon de poser les questions. Le problème ce n'est pas de savoir si les gens ils prient ou pas, parce que vous allez tomber sur le bouddhiste qui va te dire je prie, le musulman te dira qu'il prie, hein. Ces gens-là, les différentes religions, ils vous diront qu'ils prient. Alors, j'ai dit que le problème aujourd'hui, ce n'est pas de savoir est-ce que les gens prient, mais c'est plutôt qui ils prient, c'est-à-dire l'objet de la prière. Qui ils prient? Avec qui ils sont en relation? Avec qui ils sont en communion?
Amen, amen.
C'est pour qu'elle a dit, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père si ce n'est que par le Fils.
Amen.
Qui nous prions? Ce n'est pas est-ce que tu pries. C'est l'objet de la prière. Donc quand tu t'approches de Dieu, tu dois savoir, tu t'approches d'abord de qui? Tu t'approches de qui? La prière, ce n'est pas parler, hein? C'est plus que parler. La prière, c'est une rencontre.
Amen, amen.
C'est une communion. C'est une intimité. D'ailleurs, je l'explique dans mon livre, dans des termes très simples, je l'explique. La prière, ce n'est pas parler, parler comme je vous l'ai dit hier de son maître. C'est pas comme on dit voilà, à vos marques, préparez, et tout le monde commence à vite parler. Oh, 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 oh. C'est pas ça la prière. La prière, c'est pas ça. C'est une rencontre, c'est un cœur à cœur avec l'objet, celui qui s'est révélé à nous, c'est-à-dire notre Père. C'est pourquoi nous parlons de la révélation. Qui s'est révélé à toi? C'est qui? Parce que je vous dis en prière, Abraham pouvait raconter cette histoire. Si tu n'as pas une histoire à raconter, c'est-à-dire comment ça a commencé avec Dieu, c'est que tu ne l'as jamais connu.
Amen.
Abraham pouvait dire, j'étais dans le pays Dieu. J'étais avec les dieux étrangers de ma famille. Mais un jour, je n'ai pas compris, j'ai entendu une voix qui m'a parlé. Et je n'ai pas résisté à cette voix. Et je suis parti. Noé pouvait dire, j'étais dans mon pays, j'ai entendu une voix qui m'a dit, va construire l'arche. J'ai vu le déluge, j'ai vu. Des gens ont entendu, ont été visités par Dieu. Et ils peuvent vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Mais c'est étonnant aujourd'hui que les chrétiens n'arrivent pas à expliquer leur histoire. Parce que le témoignage, même dans l'évangélisation, ça commence d'abord par ta propre histoire.
Amen.
Jésus, là, les gens, ils ne l'ont pas vu. Hein. C'est à travers ta vie. C'est à travers ce qu'il a fait dans ta vie. Donc, le premier grand témoignage, c'est d'abord que tu expliques ta vie. C'est Jésus que tu dis, tu vas à l'église, tu pries là. Il a fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que si tu n'as pas une histoire, si tu ne peux pas expliquer aux gens que j'étais dans telle situation, et puis j'ai pas compris ce qui s'est passé, Dieu m'a visité, j'étais convaincu que c'était Dieu, toute ma vie s'est remise en question, et un chamboulement, un trouble intérieur, et je me suis tourné vers ce Dieu-là, j'ai crié vers ce Dieu-là, j'ai commencé à pleurer, je me suis mis à genoux, j'ai vu la misère de ma vie, de mon existence, j'ai eu ce besoin de Dieu. Si tu n'as pas une histoire à raconter, ça veut dire que tu es encore un religieux.
Amen.
Il faut que tu aies une histoire. Ça a commencé quand et comment? C'est pourquoi c'est une question de rencontrer Dieu. Et celui qui a véritablement rencontré Dieu, malgré les aléas de la vie, les hauts et les bas, même s'il dort aujourd'hui, il va se relever.
Amen.
Parce que lorsque tu as goûté à la bonté de Dieu, tu ne peux pas aller chercher ailleurs.
Amen. Amen.
C'est comme un bon plat. Tu as mangé un très bon plat dans un restaurant. C'est-à-dire que quand tu ne vas pas dans ce restaurant-là, tu vas manger le même repas. C'est tellement bon, tu ne peux pas le comparer. La Bible dit, goûtez, sentez, voyez comment l'Éternel est bon.
Amen.
Est-ce que tu sais que Dieu est bon? C'est pourquoi nous sentons la bonté de Dieu. Dieu, il est bon. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? On a goûté la bonté de Dieu, on va encore goûter l'autre bonté. Je ne vais pas donner le nom. Chacun de nous sait qu'est-ce qu'il goûte encore. Dieu est bon. Est-ce que Dieu est bon?
Amen.
Est-ce qu'il est bon? Mais la bonté de Dieu, c'est le résultat de la révélation de Dieu. Donc, la foi en Dieu, c'est la foi où tu as cru, n'est-ce pas? Maintenant, il faut que tu aies la foi de Dieu. Marc, elle avait la foi en Dieu. Marc croyait, mais ce qui manquait à Marc, c'était la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est quoi? C'est tout simplement parler le langage de Dieu. C'est se positionner là où Dieu veut que tu te positionnes. Dieu, à travers la personne de Jésus-Christ, il dit que Lazare dort. Lazare était mort, mais il dit que Lazare dort. Celui qui a la foi de Dieu, il n'appelle pas les circonstances de sa vie telles qu'elles sont. Si Dieu dit que c'est la mort, c'est le sommet, il dit que c'est aussi le sommet. On dit que tout est terminé, il n'y a plus d'espoir. Celui qui a la foi de Dieu dit qu'il y a encore quelque chose qui va se passer.
Amen.
Parce que celui qui a la foi de Dieu, il parle le langage de Dieu, il parle la parole.
Amen.
Mais la foi en Dieu, tu crois que Dieu existe. Tu crois que Dieu peut faire des choses, hein, tu crois. Mais tu n'arrives pas à avoir cette transition entre ce que tu crois et faire. Or, la foi sans les œuvres est une foi morte. C'est-à-dire que ta foi initiale, ou bien ta foi en Dieu, elle a besoin de se convertir en foi de Dieu. Parce que la foi de Dieu, c'est là où il y a les œuvres de la foi. Ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Parce que si tu dis des choses et que tu ne fais pas ces choses-là, ta foi, elle est morte.
Amen.
La foi doit être vivante. Amen. Mais pour que ta foi soit vivante, il faut que tu poses les actes de foi. Or, en posant les actes de foi, tu démontres ta confiance en Dieu.
Amen.
Parce que quand Dieu s'est révélé, tu as été rassuré de cette révélation, alors tu peux poser les actes. Voilà pourquoi vous voyez dans l'histoire d'Israël, Josué et Caleb, qui ont compris la révélation, ils étaient en Égypte comme les autres, ils ont vu les 10 plaies, ils ont vu la mer rouge se fondre en deux, ils ont vu la colonne de feu, ils ont vu la colonne de nuée, ils ont vu la manne, ils ont vu les gars, ils ont vu l'eau sortir de rochers. Lorsqu'ils vont en expédition, ils étaient tellement convaincus que Dieu était avec eux, Dieu était surnaturel, ils n'ont pas fléchi les genoux, ils ont dit « Dieu va faire !»
Amen.
Alors que les autres, ils disent « Ah, on est comme des sauterelles !» Même si c'était vrai, mais Dieu était de leur côté.
Amen.
Même si c'était vrai qu'ils étaient face aux Anakim, mais qui était avec eux? C'était Dieu ou pas?
Amen.
Celui qui était avec eux, ils ont vu comme une œuvre. La première puissance mondiale d'Égypte, Dieu les a confondus. Ils ont vu Dieu. Ce n'est pas qu'on a entendu des histoires, ils ont vu Dieu. Et parce qu'ils ont vu Dieu, ils ont dit non, Dieu est Dieu. Mais la question, est-ce que nous avons vu Dieu? Parce que c'est ça la connaissance. Lorsque Dieu se révèle, pour que nous puissions le connaître, or connaître Dieu, c'est vivre Dieu. Connaître Dieu, c'est toucher la réalité de Dieu. Connaître Dieu, c'est expérimenter Dieu. C'est plus que les simples informations que tu lis dans ta Bible, mais tu le vis dans des aspects, dans des domaines de ta vie. Tu vois comment Dieu te justifie. Tu vois comment Dieu te mène au large. Tu vois comment Dieu se glorifie. Et tu es convaincu que ça, c'est Dieu.
Amen. Amen.
Si tu n'as pas vécu l'expérimenter Dieu, c'est pourquoi je le disais tout à l'heure dans le désert, tu ne pourras pas tenir. Tu ne pourras pas. Ça va être difficile. Josué et Caleb ont vu. Mais non, je le disais encore hier, que vous savez, le miraculeux ne suffit pas pour amener les gens à craindre de Dieu. Hein. Parce que la génération de Josué, ils ont vu la même chose que Josué et Caleb ont vu. Hein. Mais le problème, c'est quoi? Mais ce sont les dispositions de nos cœurs. Ils ont vu, toute cette génération-là, ils ont vu la même chose. Mais comme Marthe, les autres, il y a certains facteurs qui ont fait que, à cause de ce qu'ils ont vu, ils ont eu peur. Marthe a vu la mort. Ça faisait 4 jours, elle s'est dit, ce n'est plus possible. D'où je disais qu'il y a la foi, elle est attaquée de toutes parts, à travers nos 5 sens. Ce que tu vois, ce que tu entends. Élie a entendu, il a eu peur, il a fui. Pierre a marché sur les eaux, il avait la foi. Parce que dans l'histoire de Pierre, Pierre a marché sur les eaux. Hein. Même s'il a fait quelques pas, mais il a quand même marché sur les eaux. La foi de Pierre en Christ, dans la parole, lui a permis de marcher. Pierre a marché sur les eaux. Mais le problème, c'est qu'en marchant sur les eaux, Pierre va voir à un moment donné les vagues, le vent violent, et en regardant ces choses-là, ça a affecté sa foi, et puis pouf, il a sombré. Le problème, c'est que ce que tu regardes là, ce que tu entends, ça va affecter ta foi. Eux, ils ont vu les Anakim, ils ont vu ces géants, ils ont dit, ah, est-ce que vraiment on va pouvoir tenir face à ces gens-là? Ils ont regardé. Or, Josué et Caleb ont vu les Anakim, mais le problème, c'est que la confiance de Josué et Caleb était tellement forte en Dieu, qu'ils ont préféré garder la grandeur de leur Dieu plutôt que les Anakim. Hein. Donc vous voyez qu'on peut être dans la même église, écouter le même message, mais ne pas le recevoir de la même façon.
Amen.
On peut tous assister au même miracle, hein, mais l'appréciation de ces miracles, elle se fera de façon différente.
Amen.
Ils ont vu, mais combien ont cru?
Amen.
C'est pourquoi le Seigneur parle à Ésaïe, il dit qui a cru à ce qui nous était annoncé, Ésaïe 53, point verset. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Le premier est là. Un, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Deux, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? La Bible dit reconnaissez l'Éternel dans toutes nos voies. Est-ce que nous reconnaissons l'Éternel dans toutes nos voies? La foi. Donc, Dieu se révèle, c'est parce qu'il doit permettre la foi. Parce que la foi est l'élément fondamental, central de la vie. C'est le carburant de la vie chrétienne. Pas de foi, tu meurs. Parce que Dieu est du domaine de la foi. Tout à l'heure, je parlais de la prière. Parce que quand tu pries, parce que c'est ce que nous faisons, humainement parlant, c'est de la folie, parce que nous parlons à un Dieu que nous ne voyons pas. Dieu est esprit. Si quelqu'un rentre ici, il vous voit en train de prier, vous êtes en train de parler, mais vous parlez à qui? On peut même penser qu'on peut nous interner, hein? Il parle tout seul. C'est vrai, nous parlons, mais à qui? Donc ceux qui parlent, ceux qui ont la foi, c'est que je suis en train de parler à Dieu, n'est-ce pas? Mais ce Dieu, la personne ne voit, mais toi tu es convaincu que tu parles, Dieu est là, il t'entend, il t'écoute. Donc il faut avoir beaucoup de foi pour prier, parce que pour croire en l'existence de Dieu, que tu parles, il t'entend, que tu n'es pas juste en train de perdre ton temps. Il faut avoir la foi. Non seulement tu parles à un Dieu que tu ne vois pas, mais tu sais qu'il est là, mais en plus tu crois au plus profond de toi qu'il entend ta prière et qu'il va exaucer. Mais il faut avoir la foi. Donc s'il n'y a pas la foi, il n'y a pas la prière. Donc prier, c'est pas parler juste pour parler. Il y a tout un mécanisme autour de la prière. Il y a d'abord qui est l'objet de ta prière. Tu t'approches de qui? Et ce qui là, est-ce que tu le connais? Et ensuite, si tu le connais, donc à ce moment-là, tu peux croire que je lui parle, il me répondra. C'est la foi. Mais cette foi-là, tu ne la fabriques pas. Tu ne la fabriques pas. C'est Dieu qui va faire naître ça. Et ensuite, tu pourras maintenant marcher. Ça, c'est la quatrième raison pourquoi Dieu se révèle, parce que tout à l'heure c'est la première, terminée par la cinquième raison, mais la quatrième raison, Dieu se révèle à nous justement, c'est une conséquence de la troisième raison, c'est pour que nous puissions marcher avec lui. Tous ceux qui ont marché avec Dieu, c'est parce que Dieu s'était d'abord révélé à eux. Si Dieu ne s'était pas révélé à Abraham, il n'allait pas bouger du pays de son père. Si Dieu ne s'était pas révélé à Noé, il n'allait pas construire l'arche. C'est parce que Dieu s'est révélé qu'ils ont commencé à agir, ils se sont mis en mouvement. Si Dieu ne s'était pas révélé en Égypte, les fils d'Israël n'allaient pas bouger. Et c'est pourquoi Dieu a fait en sorte qu'ils se révèlent en Égypte pour les pousser à sortir de l'Égypte. Marcher avec Dieu, servir Dieu, c'est pourquoi Dieu se révèle. Il se révèle pour que tu marches avec lui. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu ne crois même pas en lui.
Amen.
Tu ne peux pas marcher avec Dieu si ce n'est pas révélé. Hein. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas servir Dieu si Dieu ne s'est pas révélé. Tu ne pourras pas. Ceux qui ont marché avec Dieu, c'est parce que c'est des gens qui ont été témoins. Témoins. C'est-à-dire, tu as vu quoi? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? J'ai vu quoi même? Je sers Dieu, mais est-ce que j'ai vu Dieu? Est-ce que j'ai entendu Dieu? Je dis que je sers Dieu. Vous savez, la vision que vous avez de Dieu, si c'est la mauvaise vision de Dieu, vous allez aussi nous servir de la mauvaise manière. Si la vision est déformée, toute votre vie sera déformée. La façon dont vous le regardez, la façon dont il s'est révélé à vous, hein, ça détermine beaucoup de choses. Si vous avez la mauvaise vision, la mauvaise révélation de Dieu, vous le servirez de la mauvaise façon. Dieu veut que nous puissions marcher avec lui. Mais celui qui marche avec Dieu, il doit marcher avec assurance. Mais cette assurance-là, qui va susciter cela? C'est Dieu. C'est pourquoi dans le fameux Notre Père, puisque c'est par là qu'on va terminer, ça va résumer déjà les quatre étapes de pourquoi Dieu se révèle. Premièrement, dans le Père notre Père, qu'est-ce qu'il est dit? Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Ça commence par là. Il dit notre Père. Vous allez remarquer que le Seigneur, lorsqu'il enseigne sur la prière, il n'a pas dit, quand vous priez, dites notre Seigneur qui est dans le ciel. Il n'a pas dit, quand vous priez, dites notre Dieu qui est dans le ciel. Il n'a pas dit que quand vous priez, dites le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il leur dit notre Père qui est dans les cieux. Or, celui qui dit notre Père, c'est celui qui est dans une condition de fils. Or, n'est pas fils de Dieu tout le monde. Celui qui appelle père, c'est celui qui se reconnaît fils et qui le reconnaît comme son père, donc qui reconnaît qu'il est dans une relation. Donc, notre père, nous sommes en relation avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 1, à partir du verset 12 à 14, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le privilège de devenir enfant de Dieu. Et la Bible dit que ce sont tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Christ qui lui appartiennent, et l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. Donc, celui qu'il appelle Père, c'est celui qui a reçu le Fils dans sa vie. Donc, c'est pourquoi je disais hier, tout le monde n'est pas en relation avec Dieu. Dieu est créateur du visible et de l'invisible, mais il n'est pas le Père de tout le monde. Il est le Père de ceux qui ont reçu le Fils, de ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Et ce sont ceux-là, avec l'Esprit de Dieu en nous, qui peuvent l'appeler Abba, qui peuvent l'appeler Père. Notre Père, c'est d'abord la relation. Par Jésus-Christ, Dieu vient établir une relation avec les hommes. Pas une religion, une relation. Dieu veut être proche des hommes, Dieu veut communiquer avec nous. Une relation. Notre Père qui est aux cieux, dans la sphère invisible et spirituelle. Que ton nom soit sanctifié. On a dit après la relation, il y a quoi? Il y a la connaissance. Et hier, je vous dis que la connaissance de Dieu, nous l'avons à travers les manifestations de Dieu dans les circonstances de nos vies. Et ce sont ces manifestations de Dieu là où Dieu a révélé son nom. Dieu a révélé qu'il était le Dieu de victoire, le Dieu de paix, le Dieu qui pourvoit. Les différents noms de Dieu sont le résultat des manifestations de Dieu dans des circonstances bien précises. Que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que ton nom soit mis à part, domaine réservé. Or, le nom de Dieu, nous le découvrons à travers justement la révélation de Dieu dans les circonstances de nos vies. C'est celui qui est en détresse, qui crie vers Dieu, qui découvre que Dieu est celui qui arrache dans la détresse. C'est celui qui était dans une maladie compliquée, chronique, incurable, qui a crié vers Dieu et qui découvre qu'il est le Dieu qui guérit. Amen. Que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que les œuvres de Dieu sont inimitables. Ce sont des pièces uniques, sanctifiées, mises à part, domaine réservé. Ce que Dieu fait, personne d'autre le fait. C'est pourquoi lorsque Dieu décide d'intervenir dans nos vies, il le fait parce qu'il sait que lorsqu'il va le faire, personne ne pourra faire comme lui. Que ton nom soit sanctifié, c'est pourquoi nous découvrons Dieu à travers les noms. Nous découvrons Dieu à travers les noms. La connaissance de Dieu nous vient à travers les noms qui sont le résultat des circonstances de nos vies. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. On parle du règne de Dieu, nous parlons de son influence, de sa domination. Après la connaissance, qu'est-ce que nous avons dit? La connaissance doit nous amener à quoi? Doit nous amener justement à la confiance, à la foi. Parce que on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ce serait suicidaire, n'est-ce pas? Et ce serait dégoûtant. Nous faisons confiance à des personnes que nous connaissons. C'est pourquoi Dieu, pour nous amener à la foi véritable, il faut qu'il se révèle. Pour nous permettre d'être rassurés qu'il est le Dieu qui est digne de notre confiance. Alors, que ton règne vienne. Le règne de Dieu, ce sont les œuvres, ce sont les actions de Dieu. C'est la suprématie de Dieu. C'est la domination de Dieu. Comment Dieu intervient dans ta vie? Comment Dieu se déploie dans ta vie? Et là, c'est en corrélation avec que ton nom soit sanctifié. C'est là que ça va t'amener justement à te rendre compte qu'il n'est pas comme les autres. Parce qu'il est au-dessus de toutes sortes de règles d'influence. La foi, la confiance, la foi va naître. Parce que tu vas te rendre compte que ton Dieu, il est réellement Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je disais qu'après la foi est l'élément maintenant moteur. C'est le carburant qui va te permettre de marcher avec Dieu. La foi, c'est ce qui va te permettre de servir Dieu. Sans la foi, tu ne pourras pas même prier Dieu. Que ta volonté soit faite. Ne peuvent faire la volonté de Dieu que ceux qui ont la foi en Dieu. Ne peuvent faire la volonté de Dieu que ceux qui croient en Dieu. Tu ne crois pas en Dieu, tu ne feras pas sa volonté. Pour faire la volonté de Dieu, tu dois croire en Dieu. Or, faire la volonté de Dieu, donc, c'est agir pour Dieu, c'est là où nous parlons de la marche, parce que dans la marche, c'est là que nous faisons la volonté de Dieu. Nous faisons. La volonté de Dieu ne se fait pas en restant enfermé dans ta maison et en priant jusqu'à ce que Jésus y revienne. Tu es enfermé, tu es enfermé, tu es enfermé. Non, non. C'est sur le terrain, c'est dans ton monde que tu dois faire la volonté de Dieu. Amen. C'est pas en restant enfermé. Donc, tu as cru, tu as eu la foi en Dieu, mais non, après, il faut que tu te mettes en mouvement pour Dieu. Pour faire cette volonté de Dieu. Tu dois toucher d'autres personnes. Tu dois témoigner de ce Dieu-là à d'autres personnes. Mais si tu restes sur place, tu as cru en Dieu, mais tu ne bouges pas. Tu restes sur place dans ton monde, à toi, enfermé sur toi. Tu ne feras pas la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, tu ne vas pas la faire en étant enfermé dans ta chambre et dans ta maison. La volonté de Dieu, tu la feras en sortant des quatre murs de ton existence. La marche. Et cette marche, elle continue parce que il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et là, nous terminons par donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos offenses. Ne nous induis pas dans nos passions. Délivre-nous. Ce petit groupe-là de mots, c'est toujours dans la marche. Parce que c'est en marchant avec Dieu que tu découvres que Dieu pourvoit à tes besoins. C'est en marchant avec Dieu que tu te rends compte qu'il y a la tentation sur ton chemin. C'est en marchant avec Dieu que tu découvres que face à l'adversité, aux difficultés, Dieu vient te délivrer. Tu découvres cela, mais c'est dans la marche. Mais si tu es à la maison, enfermé, tu n'es pas productif pour Dieu et son royaume, tu n'es pas nuisible pour le royaume des ténèbres. Satan ne va rien faire parce que tu ne le déranges pas. Mais quand tu te décides de te mettre en mouvement pour Dieu, d'agir pour Dieu, c'est là que le royaume des ténèbres va se lever contre toi. On ne jette des pierres qu'un arbre qui porte de fruits. Quand tu commences à porter des fruits pour Dieu et pour son royaume, tu vas démanger le royaume des ténèbres.
Amen.
C'est là que tu vois tous les problèmes qui viendront vers toi. Donc c'est dans la marche que il va arriver aussi que tu tombes et tu as le Dieu qui pardonne tes péchés. Mais si tu ne marches pas, comment tu vas expérimenter tout ça? Et c'est par là que nous restons sur ces quatre aspects. Et tout à l'heure, nous terminerons par casser ta toi à partir du règne de la puissance et la gloire. Et ça, c'est la cerise sur le gâteau parce que c'est le terme de ça. Si nous ne comprenons pas que finalement, à la fin, peut-être que tout le monde ne sera pas là cet après-midi, mais je veux juste le dire en passant, si nous ne comprenons pas que finalement, à la fin, ce que Dieu veut, c'est que nous soyons les vrais adorateurs. Et ça, le but final. Tout ce que j'ai cité, là, le service, les activités passeront. L'adoration restera. Mais alors, c'est quoi la vraie adoration? Parce que le Père ne cherche pas des adorateurs, il y a déjà suffisamment d'adorateurs sur la terre. La Bible dit qu'il cherche vrai. Alors, qui sont-ils? Et ça veut dire quoi? Parce que c'est ce qui, finalement, à la fin, c'est ce que Dieu lui veut. Parce que celui qui a expérimenté Dieu, celui qui a vécu Dieu, lorsqu'il va adorer, il ne va pas adorer parce qu'il a entendu Moïse, ou bien David.
Amen.
Il va adorer parce que lui-même, il a vécu.
Amen. Amen.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a trop d'adoration par procuration. On adore trop parce que David a dit. Dieu sait ce que David avait dit et c'était dans quelles circonstances. Dieu sait ce que Moïse, ce que Abraham lui avait dit et c'était dans quelles circonstances. La question, aujourd'hui, toi et moi, puisque nous disons que Dieu n'a pas changé, alors pourquoi nous l'adorons aujourd'hui? Pourquoi nous l'adorons aujourd'hui? Est-ce que nous allons continuer à adorer un Dieu du passé ou bien nous allons adorer un Dieu qui est actuel? Parce que souvenez-vous, il a dit, quel est son nom? Je suis.
Tu
c'est-à-dire l'éternellement présent. Dieu se conjugue au présent. Et on verra cet après-midi également la conjugaison de Dieu. Dieu se conjugue au présent. Ce n'est pas au passé. Hein.
Amen.
Dieu se conjugue au présent. Il a dit, je suis. Donc, nous adorons le Dieu qui est présent. Ce qu'il a fait avec les autres, ça nous aide à nous attacher à lui. Hein. Mais ce qu'il a fait aux autres, il le fait encore aujourd'hui. Il est vivant. Mais qu'il ne soit pas vivant que dans nos chansons par rapport au passé. Il est vivant. Il est vivant. Alors je vais vous inviter à prier le Seigneur par rapport à cela. Donc je résume, Dieu se révèle pour nous mettre en relation avec lui. De cette relation naîtra la connaissance de Dieu. Dans cette connaissance de Dieu, Dieu va naître là, faire naître la foi en toi. Et la foi, lorsqu'elle est née, tu pourras marcher avec Dieu. Et celui qui marche avec Dieu, il doit se retrouver à être un adorateur véritable pour le Seigneur. Alors nous allons prier que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes qui comprennent le sens de la révélation. Pourquoi Dieu le fait? Même quand Dieu te guérit, même lorsque Dieu te donne une promotion, même lorsque Dieu accomplit des choses surnaturelles dans ta vie, c'est parce que Dieu veut atteindre certains objectifs dans ta vie. C'est pas parce que tu as vécu le surnaturel avec Dieu que c'est juste parce qu'il l'a fait. Dieu fait toujours une chose avec un but. Tout ce que Dieu fait, le salut, la délivrance, il y a toujours quelque chose que Dieu poursuit dans les œuvres qu'il accomplit dans nos vies. À nous de les saisir, à nous de les comprendre, afin de reconnaître l'Éternel dans toutes nos voies et de lui offrir l'adoration dont il a besoin. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu, parce que nous voulons aller plus loin et progresser dans notre communion avec toi. Nous voulons, Seigneur, que nous puissions véritablement être des personnes qui te servent avec raison et connaissance. Je me souviens encore, dans le Cantique des Cantiques, il est écrit, c'est avec raison que nous t'aimons. Seigneur, nous voulons te servir, non pas juste sur la base de la tradition, non pas juste sur les informations que nous avons reçues, mais nous voulons te servir sur la base de ce que nous avons vécu avec toi. Et nous savons que tu as tellement fait et tu fais encore dans nos vies. Déjà le peu que tu as manifesté dans nos vies, nous voulons prendre le temps de l'apprécier, Seigneur, afin d'être les bâtisseurs d'autels. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu, parce que nous croyons assurément que selon ta grâce, tu nous aideras en cette année 2014 à mieux nous positionner, à mieux te servir et à mieux véritablement marcher avec toi. Aide-nous, nous te supplions ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et nous pouvons dire Amen.
Amen. Que Dieu vous bénisse.